Donc, la situation continue de brasser. On va suivre ça très attentivement au cours des prochains jours.
On passe au caucus avec Antonine Iaccarini.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Antonine Iaccarini, de retour de vacances. Je suis très content de refaire le caucus avec toi, mon ami.
Moi aussi. Par contre, il a fallu que je me gère, Jeff.
Oui, c'est ça. Parce que là... ça bougeait en tabarouette pendant tes vacances. Là. Puis là, même, je me suis dit, à un moment donné, Anto ne sera pas capable de décrocher. Puis là, je vais te nommer des exemples qui me viennent en tête. Là. Christian Dubé a dit « chaque mon camp ».
Juste le ministre
de la Santé. À veille de Noël, la dernière journée avant le congé des fêtes, il a dit à François Legault, il a fait un gros finger, puis il a dit « t'avais juste à gérer ça mieux que ça, ces négociations-là avec les médecins ». Pablo Rodriguez a pas eu le choix de partir.
Il a démissionné, mais c'est quasiment fait démissionner.
C'est ça, exactement. Il n'y a pas vraiment un choix. Puis là, à l'international, ben Nicolas Maduro a été capturé dans une opération militaire qu'on ne pensait pas que ça pouvait encore exister.
Est-ce que tu l'avais vu venir, toi, Jeff?
Non, je ne l'avais pas vraiment vu venir. Là, ce qui se passe en Iran, ce que Mathias vient de nous jaser avec des manifestations monstres, des gens qui sont abattus par le régime là-bas. Alors, ça n'a pas de sens. Donald Trump et la Fed, ben ça continue. Puis là, avec tout ça, il y a Charles Milliard qui essaye de se faufiler dans l'actualité en disant « Coucou, j'existe, je serai sûrement le prochain chef du Parti libéral du Québec. » Ça en est brossé des affaires les trois dernières semaines?
Oui, honnêtement, moi, ça faisait 2 ans que j'avais pas pris de vraies vacances. Ouais. J'avais pas décroché. Ah. Je m'étais prévu 4 semaines de vacances.
C'est vrai, juste pour t'arrêter, j'ai oublié, il y a une femme qui a été tuée au Minnesota.
Juste ça, il y a des désordres avec le ICE aux États-Unis, une femme qui a été tuée, puis là, c'est la guerre en ce moment de spin, là, la perspective, là, t'sais, c'est la faute à qui, est-ce que c'est de sa faute à elle, etc. Ça, j'ai vu ça passer la semaine passée. En toute honnêteté, j'étais en dehors du pays, là, parce que pour décrocher vraiment, on dirait qu'il faut sortir du pays. Je vous confie que je trouve ça spécial parce que de nos jours, les chroniqueurs politiques, mes collègues avec lesquels que je croise un peu partout dans les médias, j'en ai plusieurs qui font des chroniques en voyage. Okay? Donc, ils partent dans le sud, puis ils font des zooms de leur chambre, dans des lobbies d'hôtels, etc. On est rendu à un point où c'est vraiment difficile de décrocher. Et l'actualité politique arrête jamais, mais j'ai réussi. Je suis fière de moi.
Félicitations.
J'ai rien fait. À partir de, mettons, les premiers jours de vacances, ça n'a pas très bien été. Là, j'ai dû mettre toute d'affaires. Mais quand j'ai vraiment arrêté, j'ai lu les nouvelles, mais tu sais, comme quelqu'un de normal, mettons.
Oh, oui, tu t'es pas mis à suranalyser puis à faire 50 millions de téléphones. Moi, vois-tu, je voulais vraiment décrocher aussi durant mes 11 jours de vacances, puis j'ai réussi. Je m'étais dit, je vais m'en mettre dans l'actualité, rendu au vendredi, samedi, avant de revenir, parce que, bon, pour bien préparer l'émission, j'animais le matin autant que le midi. Et, Donald Trump m'a tout réglé ça en un temps, trois mouvements. Il a capturé Nicolas Maduro, fait que j'ai dit, éclipse médiatique, voici de ce que je parle le lundi. J'ai trouvé des spécialistes pour en parler, puis c'était réglé. Donc, merci, Donald, réellement, d'avoir facilité mon retour au travail.
Oh mon Dieu, c'est rare qu'on entend ça ces temps-ci. Merci, Donald.
Non, mis à part Donald Trump, les États-Unis, on en a parlé beaucoup. On va en parler tout à l'heure aussi à 1 heure avec Pierre Graff, analyste économique, à savoir pourquoi les grandes pétrolières américaines ont dit à Donald Trump, « Wow, 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 toi, avec ton pétrole du Venezuela, il n'y a pas grand-chance que j'aille investir ou réinvestir à cet endroit-là. » On va surveiller quoi en 2026 dans le monde politique? Puis là, moi, je commence avec le fédéral. Je vois ce qui se produit. Mark Carney fait quand même un voyage assez important et inédit cette semaine en se rendant en Chine et au Qatar. J'ai vu 2 personnes transférées. Le Christophe Freeland quitte, mais c'est un comté qui devrait rester libéral. Il est à 1 d'une majorité et il se comporte comme un premier ministre majoritaire. J'ai l'impression que plus tôt que tard, on va arriver là. Je me trompe-tu?
Bien, c'est sûr qu'on n'a pas de boule de cristal, là, puis on fait notre gros possible avec ce qu'on a devant nous. Mais moi, je miserais mon petit 2 $ sur Mark Carney va finir par réussir à avoir sa majorité. Ça, c'est vraiment à surveiller pour l'année 2026. C'est est-ce que M. Carney va réussir à avoir sa majorité, mais aussi est-ce qu'il va l'avoir avant le vote de confiance de Pierre Poilievre, son chef de l'opposition qui est en face de lui à la Chambre des communes.
Ce vote de confiance-là est fin janvier?
Début février.
OK.
Et disons que pour Pierre Poilievre, ça change toute la donne. Parce que si Mark Carney a une majorité, tu sais, les conservateurs, en ce moment, ils se disent, bon, on a un pilote, on est dans un avion, là, mettons, on fait une métaphore. Notre pilote, c'est Pierre Poilievre. Il a ses qualités, il a ses défauts. Généralement, un chef qui a eu une défaite électorale, sa situation est plus précaire. Là, il y a un vote de confiance qui s'en vient. Mais quand tu es dans un gouvernement minoritaire, une situation de gouvernement minoritaire, c'est pas le temps d'enlever le pilote de l'avion. Ben tu sais pas c'est qui va le remplacer. Tu prends pas trop de risques. Il faut être prêt à tout instant à partir en élection. Mais si Carney réussit à avoir une majorité, aïe, 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 là, ça devient plus chaud pour Pierre Poilievre parce que les gens peuvent se dire, ben, coudonc, on est-tu capable de trouver mieux que Pierre Poilievre?
Oui, ben justement, en arrivant en février, est-ce que ça va être la priorité des conservateurs en voyant que peut-être que dans quelques mois, Mark Carney va tout simplement ne plus être touchable, de dire il faut absolument le sortir du pouvoir maintenant, quitte à qu'on soit peut-être un peu plus faible qu'on serait dans 6 mois, mais si on veut avoir une chance de peut-être renverser ce gouvernement-là d'ici les 3-4 prochaines années, c'est maintenant que ça se passe?
Oui, ça pourrait être une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour les conservateurs. Une fois que Pierre Poilievre aura gagné, ben, aura passé son épreuve de vote de confiance, parce qu'il faut quand même que tu confirmes que tu es bien en selle avant de partir en élection. Mais oui, tout peut arriver là. Donc, du côté de la scène fédérale, en 2026, on a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Il y a énormément de place aux surprises. Donc, ça va vraiment être intéressant à suivre dans les prochaines semaines. Puis, évidemment, Jeff, tu parlais du voyage de Carney en Chine. C'est sûr que la relation canado-américaine, on va continuer de la suivre avec attention. Je sais qu'on a des auditeurs, j'entends beaucoup d'acteurs dans l'espace médiatique aussi qui disent qu'on parle trop de Donald Trump. Moi, honnêtement, là, je m'inscris en faux parce que je comprends qu'on est des fois un peu tanné, omnibulé, qu'il ne faut pas toujours y donner de l'attention à M. Trump, mais regardez ce qui vient de se passer.
Il est en train de changer la géopolitique mondiale.
On peut pas l'ignorer. Là.
On peut pas.
T'sais, vous pouvez, si vous voulez, fermer la télé puis rester dans votre maison, mais je veux juste vous dire que c'est sûr que c'est impossible que le Québec, le Canada, échappe à cette espèce de révolution qu'il est en train de faire sur la scène internationale, sur l'échiquier international. Et quand on regarde, c'est bon, là, les yeux sont tournés vers le Groenland en ce moment. On ne parlait pas beaucoup du Groenland dans les 25 dernières années, mettons. Là, ça devient très important. Et si, là, il est très occupé, là, M. Trump, mais le jour où il décide qu'il y a des affaires qui nous touchent, nous, là, directement, qui ne font plus son affaire, là, je m'excuse d'être négative, mais on ne fait pas le poids. Là.
Mais
je donne l'exemple de la gestion de l'offre, là, cette espèce de système de contrôle des prix qu'on a dans notre production agricole, les œufs, le lait, etc. Le jour où Donald Trump dit c'est terminé, là, honnêtement, ça va être compliqué. Là.
Le jour où il va décider qu'il veut détenir le Grand Nord canadien parce qu'il trouve que l'accès n'est pas bloqué aux Russes et aux Chinois,
ouais,
que c'est pas sécuritaire.
Puis il répète sans arrêt que le Canada fait pas sa job au niveau militaire.
Exactement.
Donc. Mais là, on pourrait donner 10 exemples différents, mais... En tout cas, moi, cette année, je suis désolée de vous annoncer, on va en parler de Donald Trump. Puis je vous invite à vous y intéresser parce que c'est incontournable et on ne peut pas vraiment s'en échapper. Les élections de mi-mandat vont être super importantes. Là, j'ai vu, on a entendu tout le monde que M. Trump a commencé à dire peut-être qu'on n'est pas obligé de tenir ça, des élections de mi-mandat, dans le fond.
Peut-être que je ne voudrais pas ma défaite cuisante. Parce que l'inflation est à 2,7% présentement aux États-Unis. Puis j'avais promis aux consommateurs moyens qu'il y en aurait plus dans ses poches, puis il y en a moins. Fait que peut-être que ça ferait bien qu'il n'y en ait pas, mais d'après moi, il va en avoir.
Un petit deux piastres là-dessus.
Oui, c'est ça.
Si on se transfère à Québec maintenant...
Avant de transférer à Québec, deux secondes. Non, c'est juste parce qu'on a un texto super intéressant qui est rentré. Et je le répète, 418-971-1021, posez-nous vos questions, interagissez avec nous. Mark Carney, un élu libéral, mais il se comporte en conservateur en faisant tout ce que les conservateurs veulent faire. Je vois faire des oui de la tête. C'est vrai? Puis la preuve, c'est que Stephen Harper a appuyé le plan économique de Mark Carney.
Absolument. Et ça fait aussi quelques problématiques à l'intérieur du Parti libéral du Canada, parce qu'il y a des députés là-dedans qu'être conservateur, ça ne les intéresse pas vraiment.
Ouais.
Et on a vu évidemment tout ce qui s'est passé avec Stephen Guilbeault, mais il y en a d'autres députés qui sont en ce moment un peu inquiets de voir la direction que le Parti libéral a prise.
Oui, bien, moi, j'ai vraiment de la difficulté à me projeter de comment tu pouvais faire partie du gouvernement Trudeau puis dire « Je suis en accord avec mon chef. Je suis mon chef. » Et d'un coup, tu te retrouves avec Mark Carney en tant que chef, puis tu dis je fais confiance à mon chef puis je suis d'accord avec le plan de chef, c'est parce que c'est vraiment deux opposés en ce moment.
Il y a
on
des gens qui ont beaucoup de flexibilité, ils ont fait leurs étirements puis ils font des grands écarts présentement pour réussir
bon
à justifier.
Bon gym, hein, font du yoga.
Ben, je pense à un François-Philippe Champagne, par exemple, qui est toujours le plus motivé puis qui défend son chef. Puis
Mélanie
Jolie,
là.
Mais c'est ça. Fait que oui, il y a des contorsions qui sont impressionnantes. Cirque du soleil, du style.
Vendredi dernier, j'ai posé la question à Farnell Morisset et à Lambert de Rainville dans leur format de débat. Est-ce qu'on va être dans une année électorale interminable où on va toujours se reposer la question? François Legault, vas-tu rester? PSPP, vas-tu se calmer? Charles Milliard, va-tu être un bon chef pour les libéraux? Je commence avec François Legault. Il va-tu rester? Il va partir, François Legault.
Écoute, moi, je faisais partie de ceux... Là, on est dans les gageurs aujourd'hui, là, oh, mais oui. Je faisais partie de ceux qui mettaient son 2 piastres qu'il était dessus en tabarouette, François Legault. Puis je me disais, s'il dit qu'il va rester, il va rester.
On l'a eu en entrevue pendant ta première semaine
puis,
de vacances. Convaincu? Ben écoute, il est pas parti, là.
Non.
Il est assis bien en selle. Il sait où il s'en va, puis il veut prendre les moyens pour. Et là, moi, je me disais... La démission de Christian Dubé va le faire flancher totalement. Il va revenir de vacances. Il va dire « OK, c'est fini ».
C'est assez.
Mais là, non. Il n'ira pas marcher dans la neige demain matin.
Bien, marcher dans la neige, il nous l'a dit. Là, il l'a fait, là, c'est beau. Là, c'est fait. Je vais marcher dans la neige. Arrêtez de me poser la question. Le problème pour François Legault, c'est que les gens n'arrêteront pas de lui poser la question. La CAQ demeure en difficulté. Évidemment, les sondages ne sont pas excellents. On perd des députés. C'est comme au compte-gouttes. Là. On en perd un par semaine à peu près. 2022, 90 députés. Hein, la CAQ est allée chercher 90 circonscriptions. Ils sont rendus à 79 députés.
C'est la plus grande débandade de l'histoire politique en perdance? Mais en même temps, c'était la plus grosse majorité. Là. C'est pour ça que je vais essayer.
J'irai
de
pas plus loin que les 20 dernières années là, pour pas qu'un auditeur historien nous écrive. Là. Mais oui, c'est vraiment de passer d'être dans la stratosphère là, des sondages et d'aller chercher 90 députés, une super majorité, et maintenant de voir des projections sur le site d'agrégation de sondages Québec 125 où on est autour de 0 à 3 députés. Oui, c'est une des plus grandes débandades qu'on a vues. Donc, la question va continuer de se poser. Je dois dire que les rumeurs que M. Legault s'en irait au printemps sont encore très fortes. Mais tu sais, des fois, ces rumeurs-là, c'est comme les mêmes rumeurs qui partent puis qui reviennent. Puis qui... C'est un peu difficile de voir ce qui est vrai ou pas parce que la décision lui appartient à lui et à lui seul. Et c'est clair qu'il y a des gens autour de lui, je pense, qui commencent à se dire que ce serait mieux pour tout le monde, à un moment donné, qu'on tire sur le pansement. Donc, on va continuer à surveiller ça. Je mets sur votre radar aussi que le rapport Galant, parce que ça clique, là, on en parle moins. 13 février qui va être remis au gouvernement. Après ça, quelle date ça va être rendu public? Donc, encore une rentrée parlementaire qui va être tout croche pour la CAQ. C'est vraiment... On dirait que toutes les rentrées parlementaires de la CAQ arrivent une grosse affaire. L'émission de Pierre Fitzgibbon, la commission Galant, il y a toujours quelque chose. Donc, ça va être vraiment à surveiller. Tu en as parlé en intro, le PQ. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon va réussir à garder son momentum et son calme?
Oui, parce que là, quand il s'est fâché, il est passé de 39% à 34%. Quand il s'est fâché contre les artistes, fait que c'est sorti d'aplaventrisme et de mots que pas grand monde comprenne.
Vacuité intellectuelle.
Oui, mais c'est ça. Ça parle pas beaucoup à l'électeur moyen, ça. J'ai l'impression qu'il faut pas qu'il tombe dans cette tale-là de l'élitisme. Est-ce que je me trompe?
Bien, je pense que c'est toujours un problème quand les gens ne comprennent pas ce que tu dis. C'est toujours un problème. Mais c'est surtout l'attitude. Je pense que les gens respectent la hauteur intellectuelle. C'est un gars intelligent, Paul Saint-Pierre Plamondon, puis les gens respectent ça, aiment ça. Mais c'est l'attitude de ne pas choisir ses combats, de s'en prendre aussi à une partie de la population que, dans le fond, c'est des gens qui sont quand même susceptibles, en plus, d'appuyer le PQ,
ben oui.
Puis, la culture. Puis, c'est comme vraiment un drôle de combat qui a été choisi. Donc, on va surveiller du côté du PQ si on choisit un peu mieux nos combats, si on a une attitude aussi de premier ministre. Parce que ce que PSPP a fait, là, il a pris le PQ, là, c'était en lambeau, là, ce parti-là.
C'était censé mourir.
Il l'a mené premier dans les sondages. Il faut le reconnaître. Mais maintenant, le pas entre passer du troisième groupe d'opposition à être premier dans les sondages et après ça, là, faire les derniers pas pour se rendre au Honoré Mercier, le cabinet du premier ministre.
C'est le plus difficile, c'est pas là. Hein? C'est comme, puis là, je vais prendre une analogie sportive, puis je suis certain que Mathias va la comprendre, puis je vais te l'expliquer en tout.
Hey, t'es-tu en train de me mansplainer? Je vais peut-être la comprendre.
OK.
Essaye-moi.
Série 4-7 au hockey. Lorsque tu as gagné 3 matchs, il faut que tu en gagnes 4 contre la même équipe. On dit toujours que la victoire la plus difficile à acquérir,
c'est la quatrième. Je suis capable de comprendre.
Pas pire, hein?
J'ai compris.
C'est relativement simple comme principe.
Ouais, mais c'est ça. Hey, Charles Milliard,
ouais.
Course au niveau du Parti libéral du Québec. J'ai une double question. La première, est-ce qu'on va vraiment arriver à mon fantasme politique que j'avais déclaré lors de la course à la chefferie du Parti libéral?
Parle-nous
en disant,
de tes fantasmes.
Moi, je veux un débat des chefs à la prochaine campagne électorale qui va mettre en scène Charles Milliard, Paul Saint-Pierre Plamondon puis Simon Jolin-Barrette. Alors, je veux la relève.
OK, OK.
Je veux qu'on me parle
Jolin Barrette est là-dedans, là.
Ouais, je veux qu'on me parle du futur du Québec. Fait que ça, bon, c'est pour la démission de François Legault. Go, Simon Jolin Barrette, go. Non, je dis ça de moi, okay, ça peut être quelqu'un d'autre.
OK, intéressant, intéressant.
Tu comprends? Bon. Mais là, Charles Milliard se retrouve dans une position où Pablo Rodriguez a démissionné, s'est fait faire démissionner. On a Yves Desjardins Siciliano, là, si je me souviens bien, si oui. Je prononce bien son nom, qui a dit, ben, organisez-moi quelque chose, puis je vais y aller. Mais là, on a vu l'organisation de Pablo Rodriguez lever la main. Alors là, le Parti libéral a dit, c'est pas une bonne idée, votez. C'est ça, votez, c'est pas une bonne idée. On a trempé là-dedans depuis six mois, ça nous tente plus. Puis là, on a un Mario Roy endetté, moins d'un pour cent des votes, qui dit, je vais y aller. On peut-tu couronner Charles Milliard, puis du côté des libéraux, se redonner un élan, s'il vous plaît? Là?
Écoute, ça devrait être un couronnement. Puis, je ne dis jamais ça, parce que moi, je suis contre les couronnements.
Moi non plus. Moi, je suis hyper démocrate. Je veux que les gens se présentent, même les gens qui n'ont pas beaucoup de chance. Puis le meilleur exemple, Bruno Marchand avait 1 % des votes, puis il a gagné la mairie de Québec.
Ben oui.
Puis à l'époque, moi, j'avais écrit, imagine-toi donc, dans le courriel du lecteur du Soleil, quand Régis Labeaume était à 3 % pour dire « Vous devriez voter Régis Labeaume ». Gars, comment j'ai convaincu le monde? Non, c'est pas vrai,
c'est
ça fait partie
toi,
de mon courriel.
C'est tout toi, ça.
Mais je suis pour ça. Mais là, dans l'état des choses où le Parti libéral est à terre, il faut qu'ils tentent de se reconstruire en 10 mois. Ils n'ont pas le choix de couronner Milliard.
Non, là, un, vous n'avez pas le temps. Deux, vous n'avez pas d'argent. Parce que, faut le savoir, là, une course à la direction, ça coûte des sous.
Ben oui!
Et le temps presse, comme tu dis, l'élection est cette année, l'automne prochain, et le Parti libéral n'a même pas terminé de passer à travers la crise, en passant. Parce que là, c'est le fun, on parle de Charles Milliard, là, mais je m'excuse, mais il y a encore plein d'affaires en suspens.
Ben, rapport
là.
À l'interne fin janvier, on a l'UPAC en suspens, la commissaire à l'éthique, puis le DGE, qui devrait arriver pas mal dans l'année électorale.
C'est l'enfer pour le Parti libéral. Donc, moi, je suis contre les couronnements de façon générale parce que si t'as pas de débat, les membres vont pas vraiment choisir une vraie orientation. Donc, toi, comme chef, là, tu veux avoir confronté tes idées avec un autre chef potentiel et que les membres aient dit « Oui, c'est vraiment ton orientation qu'on choisit, on s'en va dans cette direction-là. » Le contre-exemple, c'est quand Dominique Anglade est devenu chef du Parti libéral. Il y avait un autre candidat au début, et là, vraiment, pour mal faire, le nom m'échappe, son prénom, c'est Alexandre, c'est l'ancien maire de Drummondville, j'ai tout ça dans ma tête, mais j'ai pas le nom de famille, vous m'excuserez. Et finalement, il s'est retiré, et Dominique Anglade a été couronné. Dominique Anglade, elle a fait faire un virage à gauche à son
oui.
parti, que les membres n'ont pas nécessairement approuvé ou débattu.
En effet.
Donc, ça a joué dans sa débandade à Dominique Anglade. C'est pas la seule raison. Le parti, je pense, avait une traversée du désert à faire. Mais tu veux avoir eu des débats et que les membres aient dit « OK, on est-tu plus à gauche? On est-tu plus à droite? On est-tu plus nationaliste? On est-tu moins nationaliste? » Il faut que ce soit discuté pour que ce soit clair. C'est dans cette direction-là qu'on s'en va. Là, il vient d'avoir une course à la direction. Il y a eu des débats. Et Charles Milliard est arrivé deuxième et de façon assez convaincante. Là. Et on voit Mario Roy qui laisse circuler son nom. Je ne pense pas que ça va arriver, que Mario Roy, là, les gens à la maison se demandent peut-être c'est qui, là, parce que c'est pas un candidat qu'on a énormément
non,
vu.
Un agriculteur de la Beauce.
Très intéressant, des idées un peu différentes. J'admire son ambition et sa motivation, mais il a terminé avec 0,8 % et une dette qu'il n'a pas terminé de payer. Puis là, on se dit, ah, une dette de 15 000 $ ça ne doit pas être si dur que ça à rembourser. C'est dur en titi de rembourser une dette quand il faut que tu ramasses des dons. Tu ne peux pas rembourser toi-même.
Non.
Donc, il faut que tu ailles demander de l'argent.
À coût de 500 $ maximum.
Maximum pour payer une dette d'une campagne perdante. Écoute, c'est quoi ta motivation, toi, aller donner 200 $ à quelqu'un qui a déjà perdu?
Puis là, il veut rajouter un 30 000
Oui, parce que là, dans les règles de la course à la chefferie qui ont été annoncées, il faut faire un dépôt de 30 000 $ le 13 février. Donc, je suis désolée, là, mais ça n'arrivera pas. Non. En tout cas, peut-être. Je veux pas être méchante là, envers M. Roy, là, mais à moins là, qu'il soit vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui fait des miracles et qui transforme l'eau en vin, je pense que ça n'arrivera pas. Là, ce qui reste comme nom qui circule, c'est le nom de Guy Cormier. Guy Cormier de Desjardins, là, qu'on a vu dans les dernières années régulièrement, puis que dont le nom circule régulièrement. Il circule tout le temps, d'ailleurs, son nom. Là. Il a circulé pour reprendre la CAQ en passant. Là. Mais d'organiser une chefferie comme ça, quand le Parti libéral est en crise, quand... Je m'excuse, mais tu sais, Charles Millard a des tabarouettes de bonnes chances de gagner. Je sais pas ce serait quoi vraiment sa motivation présentement à le faire. Cela dit, ça peut être intéressant parce que les libéraux, faut pas les sous-estimer. Hein. Ils peuvent tout à fait remporter l'élection de 2026, tout dépendant de, des surprises qui sortiront des enquêtes.
En effet, du côté de Charles Millard, c'est le fun d'être la nouveauté, c'est le fun d'être celui qui arrive puis qui est un peu underdog et là qui vient chauffer à la fin Pablo Rodriguez. Mais là, il va commencer à être épié, puis ça a commencé la semaine passée avec les images de l'Allemagne.
Ouais, c'est
il trouvera
moins facile,
pas ça
hein?
drôle, là, Charles Millard, là, de se retrouver dans le siège conducteur comme ça, dans un futur camp du non.
Absolument, parce qu'en plus, du côté fédéral, le camp du non, je n'ai pas encore identifié ça allait être qui leur champion du côté du gouvernement Carney. Donc, quand tu deviens chef du Parti libéral, tu deviens automatiquement le chef du camp du non, effectivement, c'est bien dit. Quand il y a une course à la direction ou une élection, tout le monde joue un rôle. Hein. Mm-hmm. Dans une course à la direction, il y a souvent le champion et le challenger. Le champion, dans la dernière course, c'était Pablo Rodriguez. Je suis l'homme d'expérience. Il était premier dans les projections quand il y avait des sondages sur la course à la chefferie du Parti libéral. Et il était la cible des attaques. Quand tu deviens le champion, tu te rends compte qu'être le petit challenger gentil que tout le monde aimait, là, c'est plus ça. Moi, j'ai vu ça au PQ en 2015, 2014 et 2015. Il y a eu une course à la direction quand Pierre-Carl Péladeau s'était présenté pour devenir chef du PQ. C'était tellement clair que Pierre-Carl Péladeau allait gagner. Alexandre Cloutier était le challenger cute que tout le monde aimait. Il a fait une belle campagne.
Oui,
bravo,
je me
bravo.
Souviens de lui.
Mais après ça, Pierre-Carl Péladeau est parti. Et là, c'était Alexandre Cloutier le favori. Il a trouvé ça moins drôle, sa campagne.
Ben, d'ailleurs, Jean-François Lisée l'a battu, si je me souviens bien.
Il l'a perdu, même exactement. S'il avait commencé avec le plus d'appui et le plus d'intention de vote. Donc, pour Charles Millard, je pense que sa campagne va être un petit peu plus rock'n'roll et le Parti libéral demeure quand même en crise et la cible de toutes les attaques sur les questions éthiques.
Je veux terminer cet excellent caucus Iaccarini et non pas avec un sujet qu'on s'était parlé, on le gardera pour cette semaine, mais je veux t'entendre sur... une problématique sportive, Antonine Iaccarini.
Ah,
je te fais écouter.
Non, on essaie de faire attention. Écoute, Brendan, on sait qu'il comprend quelques mots, mais on essaie même présentement. Là, on est, je ne sais pas, 6-7 Québécois. Donc, même quand on est dans la chambre, on essaie de parler anglais pour être respectueux envers tout le monde. Puis, on est privilégié de parler deux langues. Puis, on veut juste être respectueux envers tous nos coéquipiers, donc on essaie d'utiliser l'anglais le plus possible.
Zachary Bolduc, Antonine.
J'étais de bonne humeur.
Nouveau joueur du Canadien de Montréal depuis cette année. Il a joué avec les Remparts de Québec ici à Québec. Il a gagné la Coupe Memorial. Il a gagné la Coupe du Président. Ils sont 6 ou 7 francophones dans la chambre depuis que Philippe Dano est arrivé, puis ils parlent tous en anglais.
Es-tu surpris? T'es-tu surpris?
C'est l'équipe de la province de Québec, Boutiarche.
De la nation, premièrement.
Ouais.
Jeff, on dit plus ça, province, on se l'est dit ensemble.
De la nation, c'est
vrai.
C'est
ta résolution de 2026.
C'est l'équipe de la nation.
Es-tu surpris?
Ben non, je suis pas surpris.
Dès qu'il y a un anglophone, on se met tout à parler anglais. Ouais. On est tellement polis.
Tu veux que je te dise, veux que je t'en compte une bonne? Et je suis certain que tu vas aimer cet homme-là autant que moi je l'aime. Patrick Roy, entraîneur des Remparts de Québec, a jamais parlé en anglais dans ses entraînements et dans le vestiaire.
Hein, pour vrai, je savais
il
pas
a
ça.
Toujours parlé en français en disant que ce sera aux anglophones à s'adapter.
Es-tu
ici,
sérieux?
On est à Québec, c'est la capitale nationale et on parle en français.
Je savais pas ça. Bon,
c'est
mais
hot, hein?
Je suis contente que tu termines sur une note positive parce que tu me mettais un peu de mauvaise humeur. Là.
Ben je le sais, fait que ça m'a permis de te parler justement de Patrick Roy, un homme que j'admire grandement. On fait une courte pause à l'émission d'Angers. Antonine, je m'étais ennuyé de toi.
Moi aussi.
Non, faut que je te le dise, j'ai vraiment apprécié ce caucus Iaccarini, qu'on reprendra pas demain parce que c'est tough, hein, le retour de vacances, ça te prend retour progressif. Hein?
Je suis brûlé raide.
C'est ça, retour progressif, fait que demain, t'es pas là, tu vas être là mercredi.
J'en reviens mercredi.
C'est correct que tu prennes un petit repos, c'est jamais facile de discuter avec moi et Mathias, je te comprends. Donc.
Mais en plus, tu m'avais parlé full de sport, fait que là,
ben, c'est ça. Exactement, faut que ton cerveau se... Ouais. Mais parlant de sport, on va en parler immédiatement après la courte pause avec Alex Laramé, journaliste au 99.5. Fin de semaine complètement folle dans la NFL. Donc, on parle de ceci après cette courte pause. Et on va également s'entretenir avec le président de l'Association des directions d'école, c'est-à-dire avec un monsieur André Bernier, parce que, figurez-vous donc, un directeur d'école qui a écrit les étudiants secondaires à Saint-Jean-Appalaches. Mathias, sont allés faire du vandalisme sur sa maison.
Une gang d'adolescents qui se trouvent drôles puis qui sont... Vraiment pas.
Exactement. Donc, on va parler de ceci avec, justement, André Bernier. C'est les deux sujets qu'on traite après cette courte pause en jase sur Boulevard 102.1.